Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Et cette semaine, on va parler de théâtre avec Laurent Ruquier et plus précisément de boulevard qui est un genre dont le but est de divertir, de faire rire bien sûr. Laurent n'est pas qu'un animateur célèbre de radio et de télévision, c'est aussi un homme et un auteur de théâtre depuis de nombreuses années. Et cette saison, il nous livre le plus beau dans tout ça. Une comédie qui se joue jusqu'au mois de mars au Théâtre des Variétés à Paris et où il est question d'un thème universel et pourtant si complexe, la beauté. Le plus beau dans tout ça, c'est une pièce à quatre personnages qui commence par le retour, 10 ans plus tard, de Matt, un mannequin de profession joué par Augustine Galeana, dans la boutique d'antiquité de Claudine, incarnée par Pauline Lefebvre, qui s'avère être son ex. Sauf que Claudine est désormais à nouveau en couple et épanouie avec Octave, Régis Laspalès. Octave a bon nombre d'avantages, à commencer par l'humour et l'intelligence, plus que la beauté. Bien évidemment, la situation va rapidement appeler le rire du spectateur, mais aussi une certaine réflexion sur ce qu'implique être beau, sur sa supériorité ou non sur l'esprit. Bref, un boulevard comme on les aime, qui ne laisse pas de côté les questionnements contemporains, et une petite part de culture. Et avec Laurent Ruquier, on va parler ensemble de l'écriture théâtrale d'un boulevard, de ce que représente pour lui ce concept philosophique qu'est la beauté, ou encore de ses prochaines pièces. Bonne écoute! Salut Laurent!
Bonjour!
Alors je tenais à te recevoir aujourd'hui, car à titre personnel j'aime beaucoup le boulevard, qui est un genre dont le but principal c'est de divertir, de faire rire, mais pas que justement parfois. Et là, tu traites un thème qui est la beauté, qui est un thème éminemment philosophique, qu'on a tendance à penser à travers le prisme de la subjectivité. Et pourtant, tout le monde s'accorde à dire que dans la pièce, Matt, qui est joué par Augustine Galeana, est beau. Il n'y a pas de débat, on y reviendra, mais il n'y a pas de débat. Et à l'opposé, Octave, qui est joué par Régis Laspalès, est de l'autre côté. Mais disons qu'il est plus défini par son intelligence, son humour.
Ouais.
Mais ici on est au théâtre, on est là pour divertir, on est là pour délivrer un message qui est clair. Et moi je me suis demandé justement à propos de cette beauté qu'on représente au théâtre, comment t'as choisi les comédiens?
Alors j'ai écrit la pièce pour Régis Laspalès au départ.
Ouais, c'est la troisième pièce que vous faites ensemble.
Exactement. Sauf que c'est la première fois que j'écris pour lui, parce que les deux pièces précédentes.
Sur mesure.
Voilà, exactement. Les deux pièces précédentes, quand je les avais écrites, j'avais pas du tout pensé à Régis Laspalès. C'est hasard.
Landru à droite,
voilà,
à gauche.
Landru, j'ai pas pensé à Régis. Il a même fallu 10 ans pour que la pièce se monte. Donc vraiment, c'est pas le premier comédien auquel j'avais pensé. Ouais. Quant à droite à gauche, c'est Francis Huster qui a choisi Régis Laspalès. Donc voilà, c'est un peu par hasard qu'au fond, je me retrouve pour la troisième fois à l'affiche avec Régis, sauf que cette fois-là, effectivement, je l'ai décidé, parce que ça s'était bien passé la dernière fois, et je me suis dit, quel thème aborder par rapport à une pièce, trouver une pièce pour Régis, si j'avais envie d'écrire pour lui. Et j'essaie depuis quelques pièces d'apporter ma patte plus personnelle, c'est-à-dire dans le sens où il n'y a pas que l'écriture, mais ce que je ressens ou ce que j'ai vécu, que j'essaie de raconter dans la pièce. Et je me suis dit, le point commun qu'il y a entre Régis Laspalès et moi, c'est qu'on n'est pas des beaux mecs. Voilà. On est des gens qui arrivent à séduire sûrement par d'autres façons. On pourra dire tout ce qu'on veut, le charme, la culture, l'humour peut-être, mais en tout cas pas parce qu'on va nous voir arriver au coin d'une porte et on va dire « Waouh !» Quel beau mec. Ça, c'est vrai que c'est un point commun qu'on a, lui et moi. Et donc, je me suis dit, ça, c'est un bon sujet. Et
c'est un bon point d'ancrage.
Et en fait, Régis Laspalès, évidemment, c'est moi dans la pièce. Voilà comment j'ai pensé à lui. Pour ce qui est du beau mec dans la pièce, ça, c'était plus compliqué. Ça a été très difficile à trouver, pour dire vrai. C'est pas que les beaux mecs n'existent pas. C'est qu'il faut trouver un beau mec qui chante.
Parce que précisément, dans la pièce.
Voilà, c'était prévu qu'il chante. En l'occurrence, une chanson de Sinatra. Et puis, en plus, il fallait qu'il soit quand même plutôt bon comédien, parce que c'est pas toujours le cas. Il y en a des beaux mecs, mais est-ce qu'ils sont acteurs? Pas toujours. Et donc on a fait un casting. Augustine Galeana, il a vraiment participé à un casting, il s'est présenté, on n'avait pas pensé
de lui-même,
on n'a pas pensé à lui spécialement, il s'est présenté et il nous a séduit tout de suite, parce que je crois que c'est en fait, avant d'être un beau mec, Augustine Galeana, je crois que c'est un séducteur né. Ça compte aussi.
Ça compte, mais pourquoi ?
Parce que, je sais pas, il doit avoir ça en lui, il se pointe quelque part, il pourrait séduire un mur, quoi. Voilà. Okay.
Oui, donc en plus, d'autant plus au théâtre, c'est important.
Voilà. Alors, ce qui n'est pas mon cas, moi, j'aurais plutôt tendance à être complexé, à être timide et à ne pas oser aborder quelqu'un. Donc, c'était intéressant parce que c'était voilà, l'antithèse du personnage principal de la pièce.
Ok. Et donc, ouais, justement. Régis Laspalès, c'est son pouvoir comique qui te rend si attaché à lui ou
Bah oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, alors c'était pas le cas tout à fait sur Landru parce que c'était une pièce historique et biographique. Je sais pas si on dit biopic pour le théâtre, non, parce que pic c'est pitcher, donc je sais pas comment on dit pour le théâtre.
Bon,
mais en tout cas, c'est vrai que à partir de la droite à gauche, surtout, j'ai vu quel pouvoir. Bon, je le savais qu'il avait un pouvoir comique, Régis, parce qu'on son duo évidemment avec Chevalier a cartonné pendant des années.
Puis on le sait tous, il y a un phrasé, il y a.
Mais voilà, lui, il a eu envie. D'abord, il m'a dit très vite, après à droite, à gauche, surtout pense à moi, réécris-moi une pièce. Donc, quand quelqu'un vous demande ça et que vous trouvez qu'il est très drôle, bah,
ça fait son chemin.
Voilà, vous n'hésitez pas.
Et plus globalement, justement, c'est quoi cette relation que tu as avec la fidélité, disons, professionnelle, qui se manifeste aussi dans les grosses têtes d'ailleurs, où tu crées une équipe, où cette équipe, elle t'accompagne et elle évolue parfois, évidemment, mais.
Oui, alors elle me nuit aussi, parce que moi je ne cache pas que parfois pour certaines pièces de théâtre, j'aimerais bien pouvoir sortir des acteurs ou des fantaisistes qui font partie de ma bande. Alors, d'ailleurs, pour dire la vérité, Régis Laspalès ne fait pas partie de ma bande. On se connaît peu, en dehors du fait qu'il joue dans mes pièces, c'est pas quelqu'un, on se fréquente pas. Donc,
c'est professionnel.
Voilà, c'est vraiment professionnel. Voilà, c'est un auteur et un acteur qui se sont, je l'espère, rencontrés et peut-être qu'on fera d'autres pièces. Et je le souhaite, et je pense qu'il le souhaite aussi, je l'espère, mais parce que ça marche. Mais voilà, c'est pas, ça fait, il ne fait pas partie de ma bande, Régis. Donc ça me fait plaisir. Non, moi, quand j'écris pour le théâtre, j'ai envie justement de proposer mes pièces à d'autres acteurs que je ne connais pas. C'est ça mon but.
Ouais, comme ici, en l'occurrence. Entre autres, parce qu'il y a des comédiennes que tu connaissais déjà.
Voilà.
Alors tu le dis, je l'ai lu, je l'ai entendu, tu es attiré par la beauté. La pièce, ça te permet de mettre ça un peu à plat. Enfin, si j'étais un peu consensuel, je dirais que c'est thérapeutique. Mais au-delà de ça, si on se penche sur ce qu'en dit la philosophie, on constate vite que si la beauté déplaît, si même parfois elle est insupportable à certains égards, c'est parce qu'elle n'a pas de sens, que ce n'est pas une affaire de morale. Et d'ailleurs, le philosophe Hegel nous rappelle qu'il y a une irrationalité du plaisir esthétique. Est-ce que ce n'est pas ce paradoxe que nous montre la pièce sans dévoiler la fin ? Est-ce que finalement le goût pour la beauté, ça ne renvoie pas juste à celui qui la pense, cette beauté ?
Ah ben absolument, la beauté de quelqu'un, c'est dans la tête de l'autre, absolument. Mais ce que j'essaie de démontrer quand même aussi dans la pièce, même si voilà, il y a un happy end qui suit pas ce raisonnement là, mais mon raisonnement c'est quand même de dire tu l'as dit en ouverture, c'est quand même de dire il y a des canons de beauté. C'est pour ça d'ailleurs que je fais citer des philosophes ou des architectes, même parce que Vitruve ça en était un de l'époque.
L'homme de Vitruve,
voilà, hein, Polyclète et autres qui ont défini quels étaient les canons de beauté, qu'est-ce qu'il fallait pour être beau. De manière objective. Et ça c'est incontestable. Alors incontestable, oui et non, parce que c'est ce qui est aussi dit dans la pièce, parce que ces canons-là, ils évoluent évidemment en fonction des époques et aussi de la géographie parce que alors c'était l'antiquité grecque ou romaine mais peut-être qu'à l'autre bout du monde dans une tribu papoue les critères de beauté ne sont absolument pas les mêmes. Donc au fond voilà, mais en même temps on est quand même obligé de faire avec les critères de la société dans laquelle on vit. Et c'est vrai que voilà, il y a des critères de beauté qui sont indiscutables. Après, on peut ne pas y être sensible. C'est en ça qu'on rejoint le fait de ce que disait Hegel. J'en sais rien, mais je te fais confiance. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quand même dans la tête de l'autre, parce que la beauté va pas faire que quelqu'un va être forcément attiré par cette beauté-là. On peut trouver quelqu'un très beau et ne pas être attiré par lui. Alors là, arrive évidemment, arrive la psychologie, ce qui se passe entre deux êtres qui font qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. Et là, effectivement, heureusement, ça n'est pas toujours lié à la beauté.
Alors c'est un thème qui parle évidemment beaucoup aux gens, c'est un thème hyper universel. Mais au-delà du côté divertissant de la pièce, est-ce que tu as déjà eu des messages marquants de spectateurs? Parce que c'est aussi un sujet qui prête au débat. Enfin, la réflexion d'abord, mais au débat parfois.
Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que des spectateurs, j'avoue que je n'ai pas eu tant de retours que ça parce que je ne suis pas à la sortie du théâtre à discuter avec le public, d'abord parce que je n'y suis pas tous les soirs. Mais en revanche, deux copains du métier qui sont allés voir la pièce, c'est assez rigolo, j'ai envie de dire. Si je caricaturais, je dirais les moches adorent la pièce.
On les embrasse.
Non, mais quand je dis les moches, je m'inclus évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui n'ont pas justement cette facilité à séduire uniquement par leur physique, ils adorent la pièce parce qu'ils disent « Ah, mais c'est moi, c'est... » Voilà, j'ai des tas de copains. Allez, je pourrais citer Jean-Marie Bigard, je pourrais citer des tas de gens qui d'ailleurs sont eux-mêmes attirés par la beauté, sont souvent soit avec une très belle femme, soit avec un très bel homme, et qui se disent bah, « J'ai réussi à séduire ce très bel homme ou cette très belle femme autrement que par mon physique, puisque c'est pas ça de toute façon qui attire. » Alors là, ça marche. Sur ce public-là, remarquez, il vaut mieux que ma pièce attire les moches que les beaux, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus.
Je te laisse responsable de ce que tu viens de dire.
Non, mais je m'inclus dedans, donc voilà. Non, mais qu'est-ce que être moche, être beau? Après, heureusement.
Bah, c'est la vraie question.
Voilà, c'est la vraie question.
C'est un feedback, quoi.
Et oui.
Alors, dans la pièce, il est aussi question de, des réseaux sociaux, des profils sur les sites de rencontres, mais aussi de la tendance de la barbe. Ancrer une pièce dans l'époque, est-ce que c'est indissociable du rire contemporain aujourd'hui? Est-ce que ça permet de renouveler le genre, de créer de nouvelles péripéties et de fait de rendre les situations un peu vues et revues, de faire un petit peu abstraction?
Alors oui et non, parce que moi, vu mon âge, je vais avoir du mal aujourd'hui à faire moderne.
Ne serait-ce que parler des réseaux sociaux.
Oui, mais quand
si
même.
Si ce n'est pas moderne, c'est contemporain.
Là, j'ai utilisé les réseaux sociaux parce que je savais que Régis Laspalès, lui, il était totalement rétif dans la vie. Ouais. Et donc, je me suis servi de son personnage dans la vie pour écrire tout ce passage sur le fait qu'il était anti-moderne, un peu déconnecté justement par rapport à la beauté et la jeunesse du personnage de Matt. Mais j'aurais du mal aujourd'hui à utiliser, sur les technologies j'arrive à peu près à suivre, mais par exemple le vocabulaire d'aujourd'hui, je vais pas me forcer à utiliser un vocabulaire que je n'utilise pas moi.
Oui.
Et que je saurais pas, donc je suis quand même un peu contraint finalement à faire des pièces de mon âge, quoi, de mon époque. En tout cas, je vais avoir du mal aujourd'hui, je pense, à écrire pour des acteurs de 20 ans. Quoi. Voilà, ouais. Soyons clairs.
Alors, dans cette pièce, il y a énormément de bons mots, de jeux avec la langue, c'est le propre du boulevard. Pour n'en citer que quelques-uns qui servent souvent le propos de la pièce, on retrouve typiquement « Je suis Matt, je préfère être brillant », il y a une espèce de jeu de polysémie, enfin, moi, je ne vais pas expliquer, vous avez compris, je pense. « Vous avez eu du bol, la vie vous a donné un job à la naissance en parlant du métier de mannequin de Matt ». Un beau coq ridicule reste un beau coq, toujours en parlant de maths. Donc voilà, il y a des bons mots, mais ce sont souvent des vraies pistes de réflexion sur le thème principal de la pièce. Et en fait, originellement, le boulevard, c'est ça, c'est divertir tout en plaçant quelques petites critiques de la société. Bon, critique toute proportion gardée sur ce terme. Est-ce que le mot critique, justement, est un peu trop fort ici ou pas pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une démarche critique, tout simplement?
Non, moi je vraiment. Alors, en tout cas, avec cette pièce-là, le but, il est vraiment de faire rire avant tout. Ouais. Après, si on peut faire réfléchir, tant mieux, et même émouvoir, parce que Régis Laspalès, il a cette capacité-là aussi. C'est que au fond, on peut être aussi ému par ce type qui. Moi, par exemple, il y a un moment dans la pièce quand Agustín Galeana chante façon Sinatra et qui là. Tout le public, on ne peut pas être insensible à la façon dont d'un seul coup ce beau gosse se met à chanter une chanson de Sinatra que tout le monde aime. Bon, et là, moi, à chaque fois, ça, en fait, je suis ému par, à ce moment-là, pas par Agustín, je suis ému par Régis, parce que je me dis, oh là là, c'est terrible, quoi, c'est le pauvre, quoi. Non, mais
c'est drôle.
Et c'est ça, en fait, le propos de la pièce, c'est d'essayer de faire rire, d'émouvoir, mais il n'y a pas de critique de la société, parce qu'au fond, c'était peut-être un peu plus vrai dans mes deux pièces précédentes avec Pourvu qu'il soit heureux, qui était quand même sur le coming out, ou À droite à gauche, qui était sur la politique.
Un peu La presse est unanime aussi.
La presse est unanime. Ah, ça, c'est mon premier boulevard. Oui, c'est vrai. Il faudrait que je la relise parce que je m'en souviens à peine. Mais oui, c'était sur les critiques, en fait. C'était sur la négritude aussi.
Ouais.
Mais Mais là, quand même, on est avant tout dans une pièce pour faire rire,
ouais, pour divertir.
Ouais. Il y a pas de message. Non, ça c'est pas vrai. J'aime bien aussi qu'on ressorte un peu, pas forcément, parfois un peu plus cultivé aussi. Voilà,
oui,
ça m'intéresse. Les choses qui sont dites sur les canons de beauté, sur Polyclète, sur Vitruve, tout ça. Bon, voilà, j'essaie toujours de placer des petites choses comme ça pour pas que le public se dise, bon, bah, je suis sorti plus bête que je ne suis entré. Bah, non, il aura ri et en plus, il aura appris des choses.
Tant qu'à faire.
Voilà.
Alors, l'écriture de l'humour, ça demande énormément d'attention, de travail, c'est au mot près. Mais au-delà de ça, l'humour, le comique, ça fait écho à quoi chez toi d'utiliser ce type d'écriture qu'il y avait déjà dans bon nombre de tes pièces, mais ça te renvoie aux figures qui t'inspirent, ça te renvoie à une manière de dédramatiser ce qui au fond te tient à cœur ou juste de divertir les gens tout simplement.
Je pense qu'au départ, alors pour le coup, on revient au thème de la pièce. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'au départ, j'ai fait rire parce que c'était ma façon de séduire. J'ai souvent raconté à l'école, j'étais ni beau, ni riche, ni costaud. Donc c'est emmerdant.
Avec son papier,
Et donc il reste plus grand chose. Donc la dernière solution, c'est de faire rire. Mais c'est pour ça que rarement les sportifs sont drôles, rarement les très beaux mecs sont très drôles. C'est très rare quand chacun puise sa force là où il peut. Et donc moi j'ai commencé à faire rire en cours de récréation et j'ai été attiré par le rire aussi. Ce qui me plaisait ou à la télévision, à la radio, c'était les émissions ou les films ou les pièces de théâtre qui me faisaient rire. Et donc, quand j'ai écrit pour le théâtre, j'ai écrit pas seulement pour faire rire, mais j'ai écrit aussi sur des choses qui me faisaient rire. Par exemple, la première pièce, justement sur Landru, en soi, on peut pas dire que ce soit d'un comique fou. C'est quand même un serial killer qui a tué une dizaine de femmes et qui les a brûlées dans sa chaudière. Mais il y avait de l'humour noir. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été le premier serial killer dont on a ri dans la société française à cause du procès et à cause de la façon dont le procès a été mené. Donc, c'est ça qui m'a attiré dans le théâtre, c'est faire rire parfois avec des sujets difficiles.
Ouais.
Mais voilà, moi je fais rire pour séduire au fond.
C'est une très bonne réponse. Pour être aimé, oui.
Voilà, évidemment.
Le décor, en tout cas le décor du premier acte, c'est celui d'une boutique d'antiquité qui est remplie de beaux objets, mais qui sont des objets anciens. Mm-hmm. Et soudain, surgit Matt, après 10 ans d'absence, comme pour dépoussiérer la vie de Claudine, qui, elle le dit elle-même, n'aime pas revenir sur le passé. Quel lien tu entretiens, toi, avec le passé, avec ce qui nous a précédé, mais aussi construit, bien sûr, dans le monde du spectacle ? Quel type d'inspiration tu puises dans le passé ?
Oh, beaucoup, tout. Au fond, moi, je fais aujourd'hui, depuis maintenant presque 20 ans, 30 si je compte la radio, mais en tout cas, dans le spectacle, je fais... tout ce que j'ai vu et que j'ai aimé quand j'étais gosse. Quand je produis les Parisiennes, par exemple, il y a un an et demi, on a fait ça avec Ariel Dombal et Nano Guerra et Ina Modja, et j'en oublie une, mais elle ne m'en voudra pas. si elle va m'en vouloir, c'est pour ça que je cherche son nom. Et Maréva Galanter, ouf. Quand je produis les Parisiennes, c'est parce que quand j'étais gamin, j'aimais les Parisiennes de l'époque et que je les voyais à la télévision danser et chanter, j'ai envie de leur faire. Quand j'écris du théâtre, c'est parce que je regardais au théâtre ce soir des émissions qui popularisaient le théâtre, pas seulement de boulevard, parce qu'il y avait aussi des Feydeau, des classiques qui étaient joués. Bon, c'était souvent des pièces comiques, mais quand même, il pouvait y avoir du Feydeau, du Labiche ou du Courteline, ce qui sont aujourd'hui considérés comme des auteurs classiques. J'essaie de faire ce qui m'a plu quand j'étais enfant. Je suis pas très moderne, moi, au fond, mais c'est pas mal de pas être moderne parce que quand on n'est pas trop à la mode, généralement on dure. Donc j'aime bien ça.
Donc, c'est pas plus mal.
Voilà.
Alors justement, tu as un vrai lien avec le théâtre. Tu en as déjà même d'ailleurs fait tout seul il y a quelques années maintenant. Tu as également dirigé le théâtre Antoine jusqu'en 2018.
Ouais.
C'est ça. La différence par rapport à la radio ou à la télévision, c'est évidemment le public. Est-ce que c'est son regard qui fonde ton plaisir de faire du théâtre ?
C'est le spectacle. En fait, ouais, pour moi, tout ça, ça fait partie.
C'est le fait de mettre en branle une équipe. De...
Ah oui, moi, non, bah, en fait, ce qui est formidable. Non, alors là, on va ramener ça à un truc encore plus important pour moi, c'est l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est génial, c'est quand on écrit quelque chose. Alors, si on n'écrit pas, quand on réfléchit à un spectacle, les Parisiennes, par exemple, c'était pas de l'écriture, mais quand on monte un projet, mais ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai, je pense, pour un peintre, c'est vrai pour n'importe quel artiste. C'est quand on commence quelque chose et puis qu'on voit le résultat final. Dans l'écriture, c'est encore plus fort parce que c'est vrai qu'on et surtout quand on écrit pour le théâtre, parce qu'on écrit pour plusieurs personnages, et d'un seul coup, ce que vous avez écrit va être interprété par, alors bien ou pas bien d'ailleurs, parce qu'on peut être déçu, écrit, mis en scène par d'autres personnes que vous, qui vont sublimer ou gâcher ou rendre à l'exact identique ce à quoi vous aviez pensé. Mais en tout cas, le suspense qu'il y a là-dedans est extraordinaire, d'avoir écrit quelque chose.
Ouais, c'est un peu galvanisant.
Et de voir le résultat au bout. Je crois que les premières représentations d'une pièce, c'est ce qu'il y a de plus jouissif, avec ensuite le fait que la pièce soit rodée et tourne à fond et que d'un seul coup il n'y ait plus un moment qui marche moins bien, que vous regrettez. Là par exemple, je suis allé le week-end dernier voir une autre pièce qui est en tournée qui s'appelle Pourvu qu'il soit heureux, que Fanny Cottençon et Francis Huster avec le jeune Louis Le Barazer jouent. C'est une pièce à trois personnages. J'avais pas vu la pièce depuis 6 ou 8 mois. Et ouais. C'est vrai que d'un seul coup, oh, qu'est-ce que c'est agréable de revoir la pièce quand vous l'avez oubliée.
Ouais,
en fait,
évidemment, un nouveau souffle.
Eh ouais, c'est un nouveau souffle. Puis surtout, voilà, c'est qu'au fond, ça y est, elle est jouée telle que peut-être on l'avait imaginée quand on l'écrivait.
Ouais.
Ce qui n'est pas forcément le cas dans les premières représentations.
Bien sûr, et presque heureusement d'ailleurs. Est-ce que toi, tu te reverrais d'ailleurs monter sur scène?
Non.
Peut-être en troupe, je ne sais pas.
Ah, en troupe, oui, peut-être. Avec d'autres comédiens. Moi, je ne suis pas comédien. Mais bon, si je jouais un personnage proche de ce que je suis dans la vie et que j'étais avec une bande de copains, je parle bien de copains, de potes sur scène, pourquoi pas faire un boulevard ou quelque chose. Mais être acteur pour interpréter un personnage, ça sûrement pas, parce que je sais que je n'en suis pas capable.
Tu vas voir des pièces parfois pour ton plaisir au-delà du travail, justement?
Et là, c'est pas suffisamment. Je vais surtout au théâtre pour mon travail depuis quelques années.
De fait, ouais.
Mais ça peut m'arriver quand même quand il s'agit de comédie musicale, par exemple. Quand je vais à New York ou à Londres, j'aime bien aller voir des comédies musicales. Là, pour le coup, c'est pas spécialement pour mon travail, c'est vraiment pour le fun.
Et puis, c'est quand même sympa.
Voilà.
J'ai lu surtout que tu as 2 autres pièces en stock, c'est ça?
Oui.
Est-ce que, déjà, de quoi elle parle? Et est-ce que, surtout, tu veux en faire quelque chose ou c'est juste une phrase, point?
Non, effectivement, il y a 2 pièces qui sont déjà écrites depuis un bon moment, qui s'appellent « Un couple magique et l'expérience théâtrale ». Et il se trouve que, bizarrement, c'est comme ça la vie des pièces de théâtre, alors que je pensais qu'elles étaient enterrées, si ce n'est définitivement, en tout cas pour un moment.
Ouais.
Là, elles sont en train de ressortir d'elles-mêmes, presque, de leur tiroir, pour des projets qui pourraient aboutir là, dans les années qui viennent. Donc, ce qui fait que peut-être je vais pouvoir faire une pause en termes d'écriture même.
Oui, parce que là...
Parce que je ne vais pas avoir 18 pièces qui se jouent en même temps. Mais donc, en tout cas, il y a sûrement ces 2 pièces-là qui vont se monter prochainement.
Trop bien. Et oui, de quoi elle parle, tout simplement?
Alors, de quoi elle parle? Alors, Un couple magique, on est dans un pur boulevard,
ouais.
Puisque c'était une pièce que j'avais écrite à l'époque pour Isabelle Mergo et pour moi, d'ailleurs, qui, comme son nom l'indique, est l'histoire d'un couple de magiciens et de sa... J'avais envie de dire sa porteuse de foulard, mais aujourd'hui ça pourrait être pris de façon religieuse, mais l'assistante qui porte les hirondelles, les colombes, et voilà, celle qui fait des manières comme un peu au téléachat à côté du magicien, voilà.
Ouais.
C'est ça l'histoire de la pièce, et sauf qu'elle prend un peu trop d'importance par rapport à l'artiste premier, et ça va être un boulevard plein de quiproquos, et elle a une sœur jumelle aussi, voilà.
Ok.
Important pour un magicien. Et l'autre pièce, alors là, elle n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Elle s'appelle l'expérience théâtrale. C'est pour ça qu'elle a... Mais pour l'instant, elle ne s'est pas montée parce que ce n'est pas ce que les gens appelleraient du Ruquier. Voilà, c'est une pièce plus surréaliste. Ceux qui l'ont lue ont référence, me disent ça ressemble un peu à du billard. C'est, voilà,
c'est
ça, ça pourrait se jouer au théâtre de l'absurde, ça pourrait se jouer au théâtre du rond-point. Vous voyez, c'est pas. Voilà. Et puis, c'est une pièce pour 2 acteurs un peu âgés dans un premier temps. Alors ça, c'est toujours compliqué parce que comme il y a beaucoup de textes, les acteurs âgés, ils ont un peu de mal à apprendre. Alors aujourd'hui, il y a des prompteurs, mais enfin, c'est quand même un peu compliqué. Et puis là, je sais pas, il y a une ouverture qui se présente, donc peut-être que la pièce va enfin pouvoir se monter. Mais c'est une pièce sur le théâtre. En fait, c'est le théâtre dans le théâtre, voilà.
Et c'est quoi la Pat Ruquier ?
Oh là là !
Quels sont les retours qu'on te fait à ce propos ?
La Pat Ruquier, je pense que c'est éviter l'ennui. Je parle pas de rire spécialement parce que pour l'instant j'ai toujours fait des pièces où on riait et je pense que ce sera toujours le cas même là avec les deux prochaines.
Mais c'est pas forcément inhérent.
Mais c'est pas forcément moi ce que j'aime uniquement au théâtre. J'aime bien être ému, j'aime bien apprendre, j'aime bien me cultiver, j'aime bien. Il y a plein de choses que le théâtre peut apporter. En revanche, il y a une chose que j'aime pas, c'est m'emmerder. Et donc c'est pour ça que je dis il y a très bonnes pièces de boulevard, il y en a très mauvaises, il y a des très bonnes pièces de théâtre public d'auteur, et puis il y en a des très chiantes aussi. Il n'y a pas de règles. Et donc moi je dirais, ma patte c'est d'essayer de ne pas ennuyer le spectateur. Voilà.
C'est une très belle conclusion. Juste avant cette dernière question que je pose à tout le monde, quels sont tes derniers coups de cœur culturels ?
Alors, mes derniers coups de cœur culturels. Alors,
pas du tout révisé.
En termes de séries, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de séries télé. Moi, sur Netflix, je suis un donf dedans. Hier soir, j'avais encore regardé 4 épisodes. Une série que je viens de découvrir qui est pas récente, puisqu'il y a 3 saisons. J'en suis qu'à la première, moi, qui s'appelle Atypical, qui est sur un garçon autiste dans une famille. Parents et deux enfants, un garçon et une fille. Le garçon est autiste. J'adore cette série.
C'est américain ?
Ouais, c'est américain. Et je regarde aussi Nous la vague, la série. En fait, je fais les deux en même temps. En ce moment, une série allemande, là, pour le coup. Okay. Plutôt réussie, elle aussi. Dans les séries, j'adore Murder aussi, mais là, j'attends la prochaine saison avec impatience. Et puis, pour ce qui est des livres, il y a le dernier bouquin de Sylvain Tesson sur La Panthère. Que,
qui est le prix Renaudot.
Voilà, que je conseille, que je trouve... Même si je le trouve parfois un peu réac, quand même, il écrit bien.
C'est une très belle fin. Merci beaucoup, Laurent.
Merci à vous.
Et bien, voilà. La quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si ce que Laurent a dit sur le boulevard vous a plu, si le boulevard est un genre théâtral qui vous intéresse, ou tout simplement, si vous voulez faire grandir la quille avec moi, n'hésitez pas à partager le podcast, à vous abonner également aux réseaux sociaux de la quille, ou tout simplement à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça coûte rien, et c'est essentiel pour moi. Je vous rappelle que le plus beau dans tout ça se joue au Théâtre des Variétés à Paris jusqu'au mois de mars au moins. Mise en scène par Steve Suissa avec Régis Laspalès, Agustine Galliana, Pauline Lefebvre, Françoise Lépine et écrite évidemment par Laurent Ruquier. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.